Le message 3. La foi qui produit la louange et vaincre l'Église dans son recouvrement. Je dois dire que dès le début, le sujet est très profond et d'une importance capitale. Et je vais faire de mon mieux pour le rendre clair. Pour chacun de nous. Donc nous regardons vers le Seigneur alors que je parle et nous prions Seigneur, guide-moi simplement, point après point, pour rendre cela clair comme du cristal pour les saints. Avant d'en arriver à la première section, qui est que la foi produit la louange, je dois vous partager quelque chose. Quelque chose qui s'est développé dans mon être alors que je servais le Seigneur. Quelque chose lié dans le Nouveau Testament. Ça va. Quelque chose avait été enlevé à une femme, quelque chose qui lui était très important. Un certain moment, il y a eu une sorte de d'épreuve sur sa foi. Et le Seigneur est venu et a rendu tout clair. Il y avait une déclaration extraordinaire. Une déclaration. Quand Christ vient, va-t-il trouver cette foi? Pour quelqu'un qui vit une vie de vainqueur, ils auront la foi qui se développe d'une manière extraordinaire. Est-ce que le Seigneur va trouver cette foi-là sur la terre? Donc nous en arrivons à la première section, la foi qui produit la louange. À présent, nous voyons quelque chose que nous n'avons probablement jamais réalisé auparavant. Il y a certaines choses que l'on peut louer autant de fois qu'on veut, à tout moment. Mais notre louange doit avoir un contenu. Ce n'est pas juste à propos de louer, d'une manière peut-être vide ou superficielle. Mais il y a quelque chose dans notre être qui doit nous motiver pour louer. Et à présent, nous devons réaliser qu'à un certain degré, le degré de notre louange dépend de notre foi. Et notre foi et notre amour sont parallèles. Et alors que nous grandissons dans la vie, alors que nous sommes dans la vie d'église, il doit y avoir un développement, une croissance, à la fois dans la foi et dans la louange. Ça ne va pas se passer d'un seul coup pour nous, mais le Seigneur va nous mettre dans une situation où nous prierons le Seigneur, nous crierons au Seigneur, et il sera silencieux. Il sera caché. Donc nous devons réaliser un certain aspect de Dieu l'aspect du fait qu'il se cache. Il est vraiment Dieu, mais il se cache. Et nous allons être dans des situations de grands besoins, alors que notre foi se développe, nous réaliserons. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien à voir, mais ma foi a été développée. Et le moment va venir où notre Dieu va devenir un Dieu qui se cache. Et donc, ce que j'ai mentionné dans la parabole, qui représenté par cette femme qui est délaissée, donc ces chrétiens qui ont expérimenté un développement de leur foi, mais aussi qui voient Dieu comme un Dieu qui se cache, mais qui savent qu'il est là. Et donc, ils savent que plus Dieu se cache, plus Dieu fait des choses. Donc, tout cela est relié à notre foi, et notre foi se développe. Et au fur et à mesure que notre foi se développe, notre louange se développe. Et le contenu de notre louange va être agréable à Dieu. Donc ce plan ne contient qu'une page, mais il y a beaucoup pour nous à voir. La foi qui produit la louange. Donc le psaume 106, verset 12, c'est une parole précieuse qui dit « Et ils crurent à ces paroles, ils chantèrent ces louanges. » Et ils crurent à ces paroles. Ces paroles. Et j'espère que les frères et sœurs, surtout les plus jeunes, mais ça inclut les saints de tout âge, que vous pourrez lire le Nouveau Testament au moins une fois par an, une fois par année, tout le Nouveau Testament. C'est vraiment juste un chapitre par jour, juste pour traverser le Nouveau Testament. Et je mentionne aussi, pour ceux qui sont à la formation à plein temps, et surtout ceux qui sont sur le point de terminer cette formation, de commencer une nouvelle étape de leur vie, vous devez lire un livre du Nouveau Testament en particulier dans votre vie normale, pas juste votre réveil matinal. Parce que c'est possible qu'on lise notre chapitre en 2 minutes et demie et qu'on ait eu une petite louange en 2 minutes et demie. On a pu le contacter. Et ils crurent à ses paroles. Ils crurent tout ce que Dieu dit. Ils ont cru. Peu importe s'ils avaient des sentiments. Et donc, notre louange est basée beaucoup sur la foi. Et nous avons une description de cela. Le point B nous dit « La louange contient un ingrédient fondamental, la foi. » J'espère que ça va simplement entrer en nous, dans notre relation personnelle avec le Seigneur, que la louange est basée sur la foi, encore et encore. La foi est l'ingrédient de la louange. Donc, alors que nous louons, notre foi fonctionne. Et plus nous louons, plus nous avons la foi. Et plus nous avons, plus notre foi est développée, et plus nous pouvons louer. Donc maintenant, nous avons deux définitions de la foi. La foi est l'aptitude à donner substance à quelque chose. Cette aptitude est produite par l'infusion de l'élément divin dans notre esprit, par l'esprit et au travers de la parole de Dieu. Donc, regardons ça plus précisément. La foi, c'est l'aptitude à donner substance à quelque chose. Donc, notre foi a cette aptitude, et de cette aptitude, est produite par l'infusion de l'élément divin dans notre esprit. Donc l'infusion est en parallèle avec la dispensation de cet élément divin dans notre esprit. C'est comme ça que l'élément de notre foi commence. Cet élément divin est infusé dans notre esprit, par l'esprit, l'esprit divin, au travers de la parole de Dieu. Donc la foi, l'esprit et la parole sont ensemble, jour après jour. Et c'est pour ça que dans votre vie quotidienne, même si vous priez, lisez un livre, quelques minutes, vous ne priez, lisez pas tout le livre, mais ce que vous priez, lisez a un effet sur vous. Et ça aura un effet fortificateur sur votre foi. Ce sera quelque chose qui va être dispensé en vous. Un élément divin va être dispensé en vous et il va être libéré. Et la foi, c'est aussi croire aux choses invisibles et pourtant réelles, selon la révélation dans la Bible. Okay. Une chose que je pourrais appeler une fausse foi, c'est quelque chose de visible. C'est de dire, ah, maintenant je crois parce que c'est en train de se passer, c'est visible. Au bout d'un moment, tout le monde va voir Christ manifester sur la terre quand il va revenir. Et ils pourront dire, ah, maintenant j'ai la foi. Mais la foi, c'est de croire aux choses non visibles et pourtant réelles. Les choses réelles, mais invisible, selon la révélation dans la Bible. Le point 2, la vie chrétienne, selon le Nouveau Testament, est entièrement une question de foi. On va faire une pause ici avant que je lise la suite. La vie chrétienne, selon le Nouveau Testament, est entièrement une question de foi. La vie chrétienne, la foi et la vie chrétienne. J'espère que peut-être avant que vous ne vous endormiez et que vous ne vous leviez demain matin, vous ayez la prière simple suivante. De dire, Seigneur, fortifie ma foi. Seigneur, développe ma foi dans toutes les situations que je rencontrerai. que ma foi prévale et que je ne perde pas ma foi. Donc ici, nous avons le sujet de la foi, le fait de vivre par la foi, jour après jour, de simplement vivre. On ne voit pas, ça ne s'est pas produit d'une manière expérientielle, mais je peux dire de manière honnête, j'ai la foi, je vis par la foi. Et tenir ferme par la foi. Ça peut sembler étrange si on voit ça pour la première fois, mais dans le chapitre 6 d'Éphésiens, c'est là qu'on a une vision claire de la guerre spirituelle en tant que un sujet corporatif et pas quelque chose d'individuel. Nous nous battons contre l'ennemi en nous basant sur la victoire de Christ sur l'ennemi. Et nous tenons ferme et nous disons au pouvoir démoniaque que Christ a vaincu et que la bataille a été gagnée et qu'ils ont été vaincus. Donc nous tenons ferme par la foi. Parfois c'est tout ce que l'on peut faire. Dans une situation particulière où nous sommes, nous tenons simplement ferme par la foi et nous marchons par la foi. Ce n'est pas la même chose d'aller à votre voiture, de marcher jusqu'à votre voiture, mais c'est de vivre par la foi, de parler par la foi, de prier par la foi. Tout cela est lié à la vie chrétienne, avec un accent sur la foi qui est développée. Alors que notre foi est développée, tous ces points seront aussi développés. Christ fait sa demeure dans nos cœurs par la foi. J'aimerais prendre quelques minutes pour me focaliser là-dessus. Nous devons prier au Seigneur. Nous devons lui donner accès à notre être pour que Christ fasse sa demeure dans nos cœurs à travers la foi. Et je pense que au moins des centaines d'entre vous, et même chacun d'entre vous, vous pourrez témoigner. Que Christ est en train de faire sa demeure dans mon cœur. Ce serait votre témoignage. Et je suis reconnaissant envers lui. Je l'apprécie. Et je sais qu'il m'aime. Et j'ouvre mon être à lui, je lui ouvre mon être pour qu'il puisse faire sa demeure dans mon cœur. Je sais qu'on a souvent entendu cela, mais pour moi c'est précieux, au-delà des mots, de pouvoir encore considérer cela, encore et encore, notre cœur. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus avec le Seigneur, de lui dire, Seigneur, je ne te connais, je ne t'ai jamais vu, mais je crois en toi. Je crois que tu vis en moi et je te demande de fortifier mon esprit pour que tu puisses faire ta demeure dans mon cœur. Et ensuite, ça va devenir réel pour vous. Peu importe votre situation. Peut-être que vous êtes en salle d'urgence à l'hôpital pour quelque chose de crucial, mais vous n'avez pas de peur parce que Christ fait sa demeure dans vos cœurs et vous réalisez Christ est fidèle, Christ est profond et il me paie, il est tout inclusif, je n'ai rien à craindre. Parce que, avant cet événement, on a permis à Christ de faire sa demeure dans notre cœur. Et vous l'avez fait par la foi. Vous ne le ressentez pas, vous n'essayez pas de l'examiner. C'est juste que la foi qui est en vous, vous réalisez, « Seigneur, je ne te vois pas encore pour l'instant. » Mais je sais que tu ne vis pas seulement en moi, mais tu demeures en moi. Et je te donne mon cœur pour que ce soit ta demeure. Je vais mettre un peu moins fort. Ça va. Si ça doit prendre place, ce sera à travers la foi. Donc, intérieurement, le Seigneur prie en nous pour que nous ayons la foi, pour que cette foi soit développée jusqu'à son plus haut niveau dans cet âge, pour qu'elle soit prête lorsque le Seigneur revienne et pour que le Seigneur puisse trouver cette foi sur la terre. Le point C, pour louer, nous avons besoin de croire. Donc si personnellement, nous réalisons que une chose en particulier nous est présentée dans notre lecture biblique, et que vous aimeriez en parler ou avoir de la communion avec quelqu'un à propos de ça. Et que vous dites, je ne suis pas sûr que je puisse vraiment croire cela. Mais je peux louer jusqu'à ce point-là. Et je peux dire au Seigneur, Seigneur, fortifie ma foi. Rends-la plus grande, plus forte que jusqu'à maintenant. Parce que pour louer, nous devons croire. C'est seulement lorsque nous croyons que nous sommes capables de louer. Donc ces deux choses vont ensemble. Quand nous avons un problème, nous prions. Et pendant que nous prions, une sorte de foi s'élève dans nos cœurs. À cet instant, nous ouvrons la bouche et nous louons. Amen. Faites attention au fait que ça dit. Pendant que nous avons un problème, nous prions. Ça peut être quelque chose de superficiel, quelque chose de profond, quelque chose qu'on comprend, ou quelque chose qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais quand on a ce problème, notre première réponse, notre première réaction, c'est qu'on prie. On prie, Seigneur, j'ai un problème. Et j'invoque ton nom. J'ai besoin de ta protection. J'ai besoin de ton approvisionnement. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. Et alors que nous prions, une sorte de foi s'élève dans nos cœurs. Et elle a été en train d'être développée en vous et elle s'élève dans vos cœurs. Et à cet instant, nous ouvrons la bouche et nous louons. Donc nous voyons comment cela se passe en nous. Il y a un problème, nous prions, la foi s'élève dans nos cœurs. Nous ouvrons la bouche et nous louons. Ça va se passer encore et encore, des centaines de fois, des milliers de fois. Nous avons tous vécu des milliers de jours. Donc ce n'est pas une mentir de dire que cela se passe continuellement. Nous avons besoin d'apprendre à louer par la foi. Donc nous avons besoin d'apprendre à louer par la foi. Surtout dans certaines situations, lorsque nous voulons louer et nous avons pratiqué cela et ça s'est développé en nous, le fait de louer et de louer à travers la journée d'une manière réelle. Mais ensuite, le Seigneur nous rend attentifs au fait que nous avons besoin d'apprendre à louer par la foi. On a besoin d'apprendre. Donc je n'ai pas le moyen de vous apprendre, de vous enseigner à comment faire, mais c'est vous qui devez le faire personnellement. Et on peut le faire avec les soins pastoraux mutuels, les encouragements mutuels. Nous avons une relation personnelle avec le Seigneur, mais nous ne sommes pas des personnes indépendantes. Et il y aura un moment où vous serez ouvert à recevoir une aide spirituelle de n'importe quel frère ou sœur, de n'importe quel âge. Peut-être que la personne aura 22 ans et il a une portion de Christ que vous n'avez pas et vous lui dites: Frère Ron, je vais aller à la maison et je vais entrer. Je sais ce par quoi tu passes maintenant et je vais prier pour toi. Donc, quelqu'un qui a 22 ans ou quelqu'un qui a 98 ans, nous avons tous besoin les uns des autres de cette manière. Et donc, cela, c'est une manière d'apprendre à louer par la foi. Lorsque nous louons le Seigneur dans la foi, l'ennemi est vaincu. Amen. Amen. Vainquons-le juste maintenant. Amen. Loué soit le Seigneur. Oh, nous te louons, Seigneur. Amen. Nous louons le Seigneur dans la foi. Juste maintenant, l'ennemi est vaincu. Il est en train d'être vaincu. L'ennemi saute dans le lac de feu. Vous savez de quel lac je parle? Non, pas vous, mais lui. Donc nous louons dans la foi. Et l'ennemi est vaincu. Vous n'essayez pas de vaincre l'ennemi par vous-même. Parce que le contrepoids de ça sera au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Le point 5, tout d'abord nous croyons et louons, et ensuite nous ferons l'expérience de la victoire. Donc nous croyons, et ensuite nous louons, et ensuite nous ferons l'expérience de la victoire. Je pense que la semaine prochaine, des centaines d'entre vous vont expérimenter la victoire de Christ. Je dis cela de la part du Seigneur. Parce que, encore et encore, fais moins fort. Okay. Donc jour après jour, ça vient. Donc jour après jour, à travers nos situations, nous grandissons devant le Seigneur. Ensuite, nous avons une autre section qui est de vaincre l'Église dans son recouvrement. Remercions le Seigneur que nous sommes dans son recouvrement. Certains saints, ils font une erreur. Ils pensent que parce qu'ils sont dans l'Église, ils sont matures, ils grandissent dans la vie, ils sont dans la victoire, parce que vous êtes dans la vie d'Église. Donc le simple fait d'être dans une église du recouvrement, ça ne fait pas de vous un vainqueur. Dans une réunion dans laquelle j'étais, il y avait un certain membre, je ne vais même pas dire si c'est un frère ou une sœur, mais ce membre a dit... Il a dit que oui, nous sommes un groupe de vainqueurs. Mais la personne qui avait dit cela, elle avait dit ça en toute sincérité, en toute honnêteté. Mais vous ne réalisez pas que vous n'êtes pas encore mature dans la vie. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Que de faire juste partie du recouvrement du Seigneur. Il y a beaucoup d'événements qui doivent prendre place dans la vie des saints qui sont dans le recouvrement du Seigneur. Et il y aura beaucoup de saints dans les églises du recouvrement qui ne seront pas prêts pour faire partie de l'Église quand le Seigneur de l'épouse quand le Seigneur reviendra. Peut-être que ce sera pendant la seconde moitié, pendant des 7 ans, les 3 ans et demi. Nous sommes d'un côté des personnes recouvrées et dans une localité merveilleuse. Mais si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'il y a encore des vainqueurs? Pourquoi est-ce qu'il faut des vainqueurs dans une église qui est dans le recouvrement? Parce que le fait d'être dans une église recouvrée, ça ne veut pas dire que vous êtes des vainqueurs. Tout le monde, tous les saints qui sont dans des églises recouvrées ne sont pas des vainqueurs. automatiquement. Et en parallèle à cela, parce que de plus en plus, bon, en ce qui me concerne, je n'ai pas de position d'ancien dans la vie d'Église. Je suis reconnaissant au Seigneur pour ça. J'ai simplement une vie quotidienne pour dispenser des soins pastoraux aux saints. Et c'est simplement une réalisation profonde. Avec des saints qui veulent avoir de la communion. Mais est-ce qu'ils sont ouverts à de la communion ouverte, honnête? Est-ce qu'ils savent vraiment où ils en sont? Parfois, après la transition entre la réunion de la table et la réunion de prophétie, il y avait une sœur qui m'avait demandé. Mais elle ne pouvait pas recevoir la communion de sa propre situation. Mais quand on sait vraiment, grâce à l'éclairage du Seigneur en nous, qui est en fait son amour en chacun d'entre nous, le Seigneur nous fait savoir, ne t'imagine rien. Voilà où tu en es. Et ne t'en inquiète pas. Sois simplement un avec moi et je te conduirai, je continuerai à te mener pas à pas jusqu'à ce que tu sois mature et prêt pour l'enlèvement. Mais on doit avoir une certaine compréhension de là où on en est. Et d'un autre côté, il y a aussi l'ennemi qui vient, qui intervient et qui nous dit « Ah, tu ne vas jamais y arriver ». Tu fais tellement d'erreurs. Et donc le Seigneur vient et il nous fortifie et nous dit, ne t'occupe pas de lui, c'est un menteur. Parce que tu as grandi dans la vie, jour après jour, ces 5 dernières années. Alors dis à l'ennemi de se taire. S'il ne se tait pas, ignore-le simplement et loue le Seigneur. Point A, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et nous allons nous apercevoir qu'il n'y a pas de, temple, c'est Dieu qui est le temple. Donc je vous donne un aperçu. Quand on viendra au point, ce sera plus clair. Point A1, en 2.17, le vainqueur deviendra une pierre transformée pour l'édifice de Dieu. Donc ça, c'est en train de se passer. Nous sommes des pierres spirituelles. Nous sommes la demeure de Dieu. Nous sommes sa demeure. Le point A2, dans le chapitre 3, verset 12a, le vainqueur sera une colonne bâtie dans le temple de Dieu. Nous finirons par voir que Dieu lui-même est le temple. Donc, nous sommes édifiés en Dieu lui-même. Le point 3. Parce qu'il est bâti dans l'édifice de Dieu, il n'en ressortira plus et sous aucun prétexte. En d'autres mots, parfois nous sommes troublés par des sentiments ou peu importe quoi. Et à cause de ça, il y a beaucoup de saints qui sont juste partis, de la vie d'église. Et c'est à la miséricorde de Dieu que nous sommes toujours là. Parce que il y a toutes sortes de choses qui ont pris place dans la vie d'église et nous sommes juste des événements. Nous sommes juste des êtres humains. Et nous n'essayons pas de nous faire souffrir, mais il y a juste nos êtres sont compliqués et il y a des tensions. Et plus on grandit, plus notre amour les uns pour les autres sera le même. Donc, parce qu'il est bâti dans l'édifice de Dieu, il n'en ressortira plus sous aucun prétexte. Cette promesse qui est une récompense pour un vainqueur sera accomplie dans le royaume millénaire. Nous approchons, nous faisons un pas de plus vers ce point crucial. Lettre B. Je n'y vis pas de temple, car son temple est le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau. Si on revient au verset 8, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et nous voyons maintenant que ce temple, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que vous devenez la même que Dieu, en vie, en nature, en tout plein d'autres aspects, mais pas avec la déité. Donc nous devons mettre les points A et B ensemble. Et les points A et B, A plus B font C. Mais oui, A et B, A plus B égale C. Vous allez voir. Si vous voulez guigner sur le point C, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez guigner. Je n'y vis pas de temple, car son temple est le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau. Ça, c'est le point B. Ce verset dit clairement que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple. Je dois faire une pause ici. Il y a plus de 1000 saints. C'est peut-être la première fois que vous entendez ces mots. La Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que la Nouvelle Jérusalem? Je vais mettre ça de côté un moment. La Nouvelle Jérusalem, qu'est-ce que c'est? On se tourne à Révélation 21, verset 2. Et le verset dit que la Nouvelle Jérusalem descend comme une mariée, comme une femme. La Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une ville, ce n'est pas un endroit, c'est une personne corporative. Ça doit vraiment être réalisé dans notre être même. Que le fait de devenir Dieu en vie, en nature et en d'autres aspects, mais que lui garde la déité. Et nous savons dans les versets 9 et 10 du même chapitre, un ange vint à Jean . Il l'a transporté en esprit sur une haute montagne. Il lui a montré la ville sainte. Il lui a montré l'épouse, la femme du Seigneur. Il a réalisé la nouvelle Jérusalem. C'est une personne corporative. C'est la mariée, la femme, l'épouse du Seigneur qui va venir. Donc, on ne va pas en direction de la Nouvelle Jérusalem. Je ne comprends pas, et j'imagine que c'est à cause des hommes, parce que les femmes ne peuvent pas imaginer cela. Mais quelques-uns disent... Certains disent que la Nouvelle Jérusalem est à des milliards et des milliards de kilomètres loin dans l'univers et qu'elle arrive petit à petit et qu'on va la voir venir. C'était un croyant qui avait dit ça. Je suis sûr que maintenant il est au paradis. Je ne sais pas s'il reçoit de la formation, de la discipline pendant les 1000 prochaines années. Mais c'est une telle bénédiction que dans le recouvrement du Seigneur, nous apprenons la vérité sur ce qu'est la Nouvelle Jérusalem et que nous devenons la Nouvelle Jérusalem corporativement. Nous n'allons pas vers la Nouvelle Jérusalem, mais nous devenons la Nouvelle Jérusalem. On peut retourner au plan B1. Ce verset dit clairement que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple. En effet, il n'y aura pas de temple. Parce que le point 2 nous dit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. Et nous serons dans ce temple pour toujours. Nous serons cette personne corporative. J'aimerais mettre l'accent sur cette expression. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle de Dieu était le précurseur ou l'annonciateur du temple de Dieu. La Nouvelle Jérusalem, comme le tabernacle de Dieu, sera le temple de Dieu. Cela indique que dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, le temple de Dieu se sera agrandi en une ville. Donc, encore une fois, ce n'est pas un lieu physique, ce n'est pas une ville, mais la Nouvelle Jérusalem se développe, grandit. Le point 5, le fait que les trois dimensions de la ville sont égales indique que la ville entière sera le Saint des Saints, le temple intérieur. Il n'y aura donc pas de temple dedans. Cela nous amène maintenant à un point très profond. C'est pour cela que je vais prendre les 25 prochaines minutes pour juste être parti. Ces versets sont parmi les plus profonds du Nouveau Testament. J'écrirai sur lui, lui qui est le vainqueur, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ce que nous considérons à présent, ce sont les saints vainqueurs dans l'Église recouvrée. Tous ceux qui se trouvent dans l'Église recouvrée du Seigneur, ne laissez pas cette pensée vous troubler, que juste parce que vous êtes dans l'Église recouvrée, vous êtes des vainqueurs et vous êtes prêts à l'enlèvement. Mais c'est parce que si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'il y a des saints vainqueurs dans l'Église recouvrée? Et pour comment ça se fait que ces saints vainqueurs-là sont prêts à l'enlèvement, pour l'enlèvement? Si vous lisez ces versets, il y a 6 ou 7 versets qui parlent de ça dans Apocalypse 3. C'est une description. Ils ont la foi, ils gardent la parole du Seigneur, ils ont été honnêtes à propos de ci et de ça, et ils pensent que ça suffit, que c'est tout, que c'est ça l'Église recouvrée. Alors c'est vrai qu'elle est, elle est là. Et je me rappelle, alors que je commençais à considérer ce verset que je viens de vous lire, et certains d'entre nous, on a eu de la communion au petit déjeuner à propos de ça, et quelqu'un qui est une personne âgée avec des décennies d'expérience dans le recouvrement du Seigneur. Donc, et son impression sur ce qu'on vient de dire, c'est qu'il n'avait pas d'attention sur ce verset qu'on vient de lire. Donc on doit vraiment prêter attention à ce verset. Donc on doit le lire, pas seulement extérieurement, mais aussi intérieurement avec notre esprit, que ce verset soit écrit en nous. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Regardez la longueur du point 1 en dessous. Donc je vais le lire d'un coup et on va l'examiner point après point. Le fait que le nom de Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem et le nouveau nom du Seigneur sont écrits sur le vainqueur indique que le vainqueur est la possession de Dieu. La possession de la Nouvelle Jérusalem et du Seigneur. Que Dieu même, sa ville, la Nouvelle Jérusalem, et le Seigneur lui-même, lui appartiennent tous, et qu'il est un avec Dieu, avec la Nouvelle Jérusalem et avec le Seigneur. Donc ça, ce sera l'expérience de tous les saints vainqueurs. Maintenant, nous devons étudier cela. le fait que le nom de Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem et le nouveau nom du Seigneur sont écrits sur le vainqueur. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va venir avec un stylo et écrire sur moi. Ça veut dire que c'est grâce à la dispensation du Seigneur. C'est vous qui devenez la possession du Seigneur. C'est ce que vous êtes devenu. Donc cela indique que le vainqueur est la possession de Dieu. C'est la possession de Dieu. Ça veut dire qu'on a le sentiment que après beaucoup de soins pastoraux, beaucoup d'expériences de croissance dans la vie, que Dieu lui-même à présent, qu'on est possédé par lui, que nous lui appartenons, dans chaque aspect. Ça peut être quelque chose de complètement nouveau pour vous, le fait d'être possédé par Dieu. Tout le monde sur la terre est un être humain qui est possédé. Il n'y a personne de indépendant. Donc même ce soir, dans cette ville où nous sommes, tout le monde est possédé par Dieu. Ou alors, les autres sont possédés par Satan, même s'ils ne le savent pas, même s'ils ne le réalisent pas, même s'ils ne le croient pas quand on leur dit ça. Donc, nous sommes soit sous le contrôle de l'ennemi, soit sous le contrôle du Dieu Trinitaire lui-même. Donc, le fait d'être vainqueur et la possession sont très proches l'un de l'autre. Parce que nous nous sommes donnés au Seigneur, nous nous sommes consacrés à lui. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Mais chaque partie de notre être, notre esprit, notre âme et notre corps, toutes nos relations, tout ce que nous possédons, tout ce qui va prendre place, lors de notre temps sur la terre, est possédé par Dieu. Et donc Dieu a le droit de faire tout ce qu'il veut avec nous, sur nous, pour nous. Les saints vainqueurs sont comme ça. Ils ne sont pas simplement indépendants. Comme s'ils n'appartenaient pas à l'ennemi et comme s'ils n'étaient pas dirigés par Dieu. Ils disent qu'ils sont indépendants. J'aime Dieu, j'ai la foi, mais je suis toujours moi. Alors non, soit nous sommes possédés par Dieu, soit par l'ennemi. Et n'avez-vous pas le sentiment, juste maintenant, que vous êtes possédé par Dieu? Et que vous voulez que Dieu fonctionne en tant que Dieu avec vous? Je mentionne aussi dans Jean 20, quand le Seigneur, il a parlé de Dieu qui est son Père. Dieu est son Père. Il n'y a bien sûr qu'une seule personne dans la déité. Mais quand Dieu fonctionne en tant que le Père, notre relation avec lui, dans une manière expérimentielle, est précieuse au-delà des mots. Parce que la manière dont dont le Père se soucie de ses enfants, de ses millions d'enfants. Et en fait, demain matin, lorsque nous prendrons la table, la première partie, pendant la première partie, nous louerons, nous prierons le Seigneur, les accomplissements de Christ et ce qu'il représente pour nous. Nous prendrons le pain et la coupe. Et nous prendrons Christ en nous et ensuite nous adorerons Dieu le Père comme la source de toutes les choses positives. Et le Seigneur, il a mentionné. Et je vous enverrai, je monte en ascension vers mon Père et vers mon Dieu. Et ici, quand on parle du fait d'être possédé par Dieu, alors, il se peut qu'on ne sache pas tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il est en train de faire maintenant avec nous, et on ne va pas avoir des informations de sa part. C'est pour ça que dans Romains 8, 28, il est dit que c'est ceux qui ont la foi en Dieu. Donc, quand Dieu fonctionne en tant que Dieu, et que nous réalisons que nous sommes possédés par Dieu et que très profondément, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va faire. Mais nous sommes reconnaissants, nous apprécions cela et que nous ne sommes plus possédés par quelque chose de démoniaque, par l'ennemi, mais nous sommes possédés par Dieu. Et nous lui disons, fais tout ce que tu veux faire. Je t'adore comme Dieu. Donc, un vainqueur est possédé par Dieu. Le vainqueur Il est possédé par Dieu et par la Nouvelle Jérusalem, par le Seigneur. Et la Nouvelle Jérusalem n'est pas un endroit. Dieu, la Nouvelle Jérusalem et le Seigneur sont des aspects du Dieu trinitaire. Que Dieu lui-même, sa ville, la Nouvelle Jérusalem, et le Seigneur lui-même, tous lui appartiennent et qu'il est un avec Dieu, avec la Nouvelle Jérusalem et avec le Seigneur. Donc essayons d'extraire ce qu'il y a dans ces points 2, 3, 4. Je peux honnêtement dire que ces déclarations, ces points sont des déclarations qui ont pris une vie d'expérience à noter. Le nom de Dieu dénote Dieu lui-même. Le nom de la Nouvelle Jérusalem dénote la ville même. Et le nom du Seigneur dénote le Seigneur même. Donc ce que nous lisons ici, ce sont ces trois choses, sont les aspects du Dieu trinitaire qui sont en train d'être gravés dans notre être. Donc le nom de Dieu dénote Dieu lui-même. le nom qui sera écrit sur nous, le nom de Dieu, c'est un signe que Dieu sature votre être. Il est en train de saturer votre être et que votre être entier est mélangé avec lui. Et le nom de la Nouvelle Jérusalem dénote la ville même. Et encore une fois, rappelez-vous que la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une ville, ce n'est pas un endroit. Donc la Nouvelle Jérusalem, encore une fois, vous sature votre être. C'est pour ça qu'il y a le nom qui est mis sur vous, parce que ce qui est en train de se passer en vous, et le nom du Seigneur dénote le Seigneur même. Donc le nom. Certains enseignants de la Bible diraient seulement le nom est là seulement de manière extérieure et nous appartenons à Dieu comme son témoignage. C'est vrai, mais c'est superficiel. Le nom est écrit comme un indicateur que c'est ce que vous êtes à présent. C'est ce que Christ en vous est. Ce n'est pas juste que vous lui appartenez, mais c'est que vous le devenez comme lui de la manière dont nous avons décrite. Le point 3, c'est aussi une déclaration merveilleuse, pas facile. Le fait que le nom de Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem et le nom du Seigneur sont écrits sur le vainqueur indique que ce que Dieu est, la nature de la Nouvelle Jérusalem et la personne du Seigneur ont tous été forgés dans le vainqueur. Forger, ça veut dire quelque chose qui a été travaillé dans votre être, gravé dans votre être. On va revoir ça, relire ça, point après point. Le fait que le nom de Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem et le nom du Seigneur sont écrits sur le vainqueur. C'est écrit sur nous, oui, parce que nous devenons cela. C'est une description de ce qui se passe en nous, dans notre être. Donc, c'est écrit sur le vainqueur. Nous ne devrions pas nous tenir devant un miroir et essayer de voir ce qui est en train d'être écrit en nous ou sur nous. Ça, c'est très égocentrique. Nous devrions juste avoir le sentiment, Seigneur, je grandis en la vie, je expérimente plus, je me réjouis plus, j'ouvre mon être plus que jamais auparavant. Et Seigneur, sache que mon cœur est complètement ouvert à toi. Et je te remercie et je te loue que quelque chose est en train de prendre place dans mon être. Et le Seigneur, il a une manière tendre de nous encourager. Il nous dit, je veux que tu réalises que tu gardes ton attention sur le Dieu Trinitaire pour qu'il y ait plus de Christ en vous. Et le Dieu Trinitaire va saturer ton être jour après jour. Sois simplement un vase ouvert. Ce simple mot, un vase. Seigneur, je suis là, me voici pour recevoir ta dispensation. Et Seigneur, je ne retiens rien de toi. Et ma requête, c'est que, alors que je suis encore dans ma vie, je chemine encore, que tu puisses atteindre les profondeurs de mon être et que tu puisses me saturer avec ta toute inclusivité. Nous sommes véritablement bénis, chers saints, de connaître cela, de savoir cela et de savoir ce qui se passe en nous en ce moment. Alors que des millions et des millions de chers saints, nous pouvons honnêtement dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils ont une compréhension différente. Parce que une compréhension de qu'ils vont simplement au ciel. Et une fois, j'étais très proche d'avoir une dispute ou un débat avec un prédicateur assez connu. On a le même âge, lui et moi. Donc, son opinion, c'était que ça, c'est quelque chose de seulement extérieur. Son sentiment, c'était que tous les saints sont des vainqueurs. Parce que dans 1 Jean, chapitre 5, ça dit que tous les croyants sont vainqueurs. Mais ça, c'est une différente sorte de victoire. Parce qu'en tant que croyant, on a la foi en Dieu. Et donc, on vint dans un certain type de situation lorsque l'ennemi essaie de nous troubler. Ça, c'est une expérience que tous les croyants authentiques ont. Mais dans Apocalypse, le fait de confondre ça avec Apocalypse 22 et de dire ça à des milliers et des milliers de gens, c'est une grande, grande erreur. Et je suis désolé de dire que il y aura des milliers et des milliers de chrétiens aux États-Unis qui ont la même compréhension spirituelle que nous, si le Seigneur l'a révélé à un homme aux États-Unis. Donc, ils auraient cette même compréhension que nous, mais parce que le Seigneur a révélé cela à un homme qui vient de Chine, ils ne l'acceptent pas. Et donc, ça, c'est leur vue humaine. Et où est leur humilité là-dedans? Et pour moi, c'est une expression d'un des aspects les plus doux, les plus gentils de Dieu. Qu'au début du siècle passé, quand le Seigneur a voulu mener à bien son économie de manière complète, il a réalisé qu'il ne pouvait pas faire cela aux États-Unis. Il ne pouvait pas faire ça non plus en Europe. Et donc, il est allé en Chine. J'ai déjà mentionné avant cette sœur âgée du Royaume-Uni qui est tombée en terre, qui est morte en Chine, et qu'à travers elle, frère Ni, a été formé, entraîné, et qu'ensuite le frère Lee a été sauvé et entraîné et formé. Et pourquoi ne devrions-nous pas simplement remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait en Chine et pourquoi ne pouvons-nous pas et ne devrions-nous pas recevoir le ministère, même s'il vient de Chine, d'une autre race. C'est une telle honte, c'est une telle perte. Et je me rappelle la première fois que j'ai vu le frère Lee dans une réunion en 1967, c'était le jour du Seigneur et on avait un temps de communion le matin. Et le frère Lee se tenait debout et il nous parlait simplement. Et alors qu'il parlait, j'ai réalisé que je n'avais jamais entendu quiconque parler sans le moi, sans le moi. Il n'y avait rien de tel. Il parlait d'une manière ordinaire et Christ s'écoulait de lui. Et ce qu'il était en train de se passer, grâce à ça, j'ai pris la décision. J'ai décidé de ne pas essayer d'être pareil, d'être semblable, parce que ça n'aurait pas été réel. Je savais que lui, il était dans un long voyage pour grandir dans la vie de cette manière. Et j'ai prié, Seigneur, pour le restant de ma vie, mène-moi sur ce même chemin, jour après jour, pas à pas. Donc on réalise la sagesse du Seigneur et son amour, tout ce qui peut arriver physiquement ou dans d'autres aspects de la vie, ça fait partie de ses soins tendres et aimants. Donc ça indique que ce que Dieu est et la nature de la Nouvelle Jérusalem et la personne du Seigneur ont été forgés dans les vainqueurs. Encore une fois, soyez simplement un vase ouvert. Ce serait vraiment très utile si pendant la journée, mais surtout pendant le matin, de dire simplement, Seigneur, je te remercie pour juste une journée supplémentaire de dispensation. Va de plus en plus profondément. Il ne peut pas le faire tout d'un coup, parce qu'on mourrait physiquement, mais petit à petit, si on s'ouvre, alors je peux vous assurer en son nom qu'il va atteindre les profondeurs de notre être, des profondeurs que nous-mêmes on ne connaît pas, mais qu'il va enlever toute chose négative et saturer toutes les parties de notre être. Notre esprit, notre âme sera saturée parce qu'il fait sa demeure dans notre cœur. Et ensuite, l'étape suivante, c'est que on veut avoir un nouveau corps. Je ne crois pas qu'il y aura des hommes et des femmes, encore une fois. Donc les hommes ne pourront pas se considérer mieux que les femmes, mais on réalisera que dès le départ, on est au même niveau. Le dernier point, la mention de la Nouvelle Jérusalem comme une récompense donnée aux vainqueurs indique que cette promesse sera accomplie dans le royaume millénaire. La Nouvelle Jérusalem dans le royaume millénaire sera une récompense réservée uniquement aux vainqueurs. Je vais conclure en lisant ça encore une fois. La mention de la Nouvelle Jérusalem comme une récompense. Ne voulez-vous pas obtenir cette récompense, Une récompense donnée au vainqueur indique que cette promesse sera accomplie dans le royaume millénaire. Les 1000 prochaines années, cette récompense, cette promesse sera accomplie. Ne voulez-vous pas être là, être présent? La nouvelle Jérusalem dans le royaume millénaire sera une récompense réservée uniquement aux vainqueurs. Donc, assurément, à l'intérieur de nous, il y a un espoir, il y a une prière. Seigneur, fais ce que toi seul peux faire pour que je sois, pour que je puisse recevoir cette récompense dans le royaume millénaire en tant qu'un vainqueur. C'est vraiment merveilleux d'être avec vous et j'espère qu'on va tous se revoir dans le royaume millénaire. Donc encore une fois, priez avec quelqu'un à côté de vous et nos frères vont donner une parole de direction et ensuite vous pourrez partager.